Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Lecture en tête à tête, proposé par l'association Lecture en tête. Nous avons le bonheur, le plaisir de recevoir Hélène Gestern. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Qui vient pour discuter avec moi, donc Antoine, aujourd'hui. C'est une lecture en tête à tête, c'est complètement ouvert. Donc elle est de passage dans nos contrées, puisqu'elle était, vous étiez hier à Biernay, vous avez été reçue à la médiathèque.
Très bien reçue d'ailleurs.
Ouais. Et tout à l'heure, vous irez à Changer, également en médiathèque, pour une causerie littéraire, une fois de plus, et rencontrer les lecteurs, soit vos lecteurs ou vos futurs lecteurs, ou pas, on ne sait pas. Et donc, parlez-nous un peu de nous. Pour commencer, c'est quoi le lien entre Hélène Gestern et Lecture en tête? Ça commence en 2012.
Oui, ça commence en 2012, quand j'étais petite, toute petite, que j'avais écrit mon premier roman. Donc j'étais venue au festival Lecture en tête, très impressionnée par tous ces gens que je voyais autour de moi, avec des premiers romanciers qui sont devenus des amis depuis et qui le sont restés. Et le premier roman, c'est toujours un peu un choc, c'est le grand bain. Et c'est aussi dans des occasions comme ça qu'on rencontre des gens qui vont vous suivre pendant de très nombreuses années, qui vont rester proches de vous, qui vont être vos compagnons de travail. Donc pour moi, Laval, c'est un très bon souvenir. Et il y avait le charismatique président, Sor Chalandon, à qui on se reparle de temps en temps, on se revoit. Donc ça a aussi signifié le début d'un petit réseau d'amitié qui est resté très vivace à travers le temps.
D'accord, c'est impressionné, vous avez dit impressionné par les autres auteurs, primo-romanciers également?
Impressionné par tout ce qui va autour de la parution d'un livre, parce que l'écrire dans sa chambre c'est une chose, mais aller le présenter à un public, c'en est encore une autre, et c'est vrai qu'on ne s'attend pas du tout à ce qui va se passer quand on publie, on a une idée très vague de la question, donc oui, c'est des souvenirs qui sont forts, nécessairement.
C'est l'exposition qui vous impressionnait, cette nouvelle exposition,
Oui, d'autant que c'est peut-être pas ma pente naturelle. Autant pour certaines personnes, ça peut être une vraie grande joie d'aller à la rencontre des autres. Autant pour certaines personnes, ça peut être un petit peu plus intimidant. Et j'étais plutôt dans la deuxième catégorie, je crois.
D'accord. Donc, c'était votre première exposition, entre guillemets, médiatique ou rencontre avec le public ou, c'était votre premier roman, ça c'est sûr.
Oui, c'était le premier roman. Non, il y avait d'autres rencontres parce que c'est un roman qui avait trouvé des lecteurs, donc il y avait eu pas mal de rencontres. J'avais même fait deux tours de France à cette occasion, ce qui était un peu beaucoup, enfin le deuxième peut-être. Il y avait eu pas mal de choses qui s'étaient passées. Bon, c'était passionnant en même temps.
Et donc Laval et le Festival du premier roman faisaient partie de ces choses.
Oui, tout à fait.
Ce démarrage en trombe un peu alors.
Tout à fait.
Et depuis, donc, quelques autres romans, je crois que c'est le septième, si je ne me trompe pas, ou je me trompe?
Non, vous ne vous trompez pas du tout. En réalité, c'est le huitième livre, c'est le sixième roman. Ah. Et entre-temps, il y a eu un récit autobiographique, une biographie.
D'accord, ok. Sur Armen, c'est ça?
Sur Armen Lubin, un poète arménien.
Très bien. Alors, maintenant que vous nous avez parlé de nous, et qu'on vous a grillé la politesse, parlez-nous un peu de vous. Alors, vous venez de l'Est? Vous vivez dans l'Est, peut-être, vous n'en venez peut-être pas.
Oui, j'y vis, effectivement.
Et vous enseignez la langue et la littérature française à l'université de Nancy.
Oui.
Vous enseigniez, avec un « i », avant d'écrire, ou en tout cas de publier, comment a pris sa place cette activité d'autrice, d'écrivaine public, je ne sais pas si c'est le terme.
Écrivaine publique, je fais ça de temps en temps dans mon bistrot, quand j'ai des lettres administratives aux gens qui en ont besoin.
C'est ça, c'est pas... ça un écrivain public.
Oui, c'est ça un écrivain
d'accord,
public.
C'est bien ce qui me semblait.
C'est un prestataire de service, c'est très intéressant d'ailleurs. J'enseignais, j'ai travaillé assez rapidement, donc j'enseignais depuis longtemps quand j'ai publié. En fait, je disais tout à l'heure que j'étais toute petite, mais j'avais 40 ans quand j'ai publié mon premier roman, comme beaucoup de gens d'ailleurs. C'est plutôt l'âge moyen de la parution du premier roman, c'est plus 40 que 25.
Et vous le prépariez depuis 40 ans déjà ?
Je sais pas, j'avais beaucoup écrit à l'adolescence, après j'avais arrêté d'écrire parce que comme j'avais fait des études de lettres, j'avais lu des écrivains, des vrais. Donc je m'étais dit, laissons la littérature aux gens qui savent la faire. Et nous, lisons-la modestement. Et puis ça m'a rattrapé, le démon de l'écriture. Mais ça a pris très 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 longtemps. Mais c'était très bien que ça a pris très longtemps. Les choses sont venues au moment où elles devaient arriver.
Les vrais écrivains, donc vous n'avez pas la prétention d'être un vrai écrivain ?
Ah ben, on met du temps à se sentir écrivain. C'est pas parce qu'on a écrit un livre qu'on est écrivain. J'ai commencé à me sentir écrivaine après Armen, après le 7e livre. Là, je me suis dit, si on fait quelque chose pendant aussi longtemps de sa vie, pendant un temps aussi long, c'est que ça n'est pas qu'une passade, c'est que ça n'est pas qu'un intérêt temporaire, c'est que c'est quelque chose qu'on a vraiment dans l'ADN. Mais je ne me sentais pas écrivaine après avoir écrit mon premier livre. Pendant très longtemps, j'étais quelqu'un qui avait écrit des livres. Et à un moment donné, oui, la bascule se fait, on se dit peut-être que je suis un peu plus que ça.
Le cap était franchi avec Armen dans la durée. Il y a eu un déclic ou c'est juste une accumulation de couches qui font qu'à un moment on se dit « Ah, ça y est, je ne suis peut-être pas... un imposteur, j'ai une légitimité, j'ai... »
Oui, c'est plutôt ça, même si je ne me pose pas tellement la question en termes de légitimité, parce que la légitimité, c'est les autres qui la font. Donc finalement, on n'a aucune prise sur ça. Qui est-on pour se dire à soi-même, je suis légitime, je ne suis pas légitime, on n'en sait rien du tout. Mais plus le fait d'avoir, que ce soit une activité qui soit poursuivie dans le temps, et qui prennent une part significative de la vie. Et quand on se dit qu'une activité a pris une part aussi significative de la vie sur aussi longtemps, peut-être que c'est autre chose justement qu'une activité, peut-être que c'est une façon d'être.
Donc cette part a évolué, l'importance qu'a pris l'écriture a évolué dans votre vie.
Oui, et paradoxalement j'ai de moins en moins de temps pour écrire, c'est ça qui est curieux. Ça a de plus en plus d'importance, mais j'ai de moins en moins de temps pour le faire.
Ça a pris un poids important
sur
la balance.
Oui, mais... ça a pris un poids important. Et puis on se rend compte que c'est curieux, parce qu'écrire, c'est épuisant. Donc on arrête d'écrire parce qu'on est épuisé. Et puis quand on n'écrit pas, on n'est pas bien. Donc finalement, on recommence à écrire parce que si on n'écrit pas, on n'est pas bien. Donc c'est un cercle sans fin.
Très bien. Eh bien, parlons un petit peu de ce petit dernier, 555, qui est apparu... Quand ? J'ai pas les...
J'ai apparu en janvier 2022.
Janvier 2022, d'accord. Donc ça fait bien, ça fait un an.
Ça fait un peu plus d'un an. Bon anniversaire.
Bon anniversaire. L'accueil a été bon également.
Oui.
Je sais pas si dans les 8, alors du coup il y en a 8 si j'ai bien compté, les 8 pavés, plus ou moins épais, qui sont de votre main, certains ont rencontré le succès du premier, ou est-ce que il y a des vagues dans la notoriété, dans l'accueil, dans...
Ah oui, il y a des vagues, c'est évident, il y a des vagues, et puis on vous pardonne très difficilement un premier roman qui a été très aimé, parce que j'ai à peu près tout entendu sur les autres qui étaient trop comme le premier, pas assez comme le premier, et en fait tous les autres avaient un énorme défaut, ils n'étaient pas le premier. Voilà, c'était ça le problème, c'est que c'était d'autres livres que le premier. Donc on met beaucoup de temps à s'en remettre. Mon éditrice m'avait dit qu'il faut compter 3 ou 4 livres pour se remettre du succès d'un premier roman. Et elle n'avait pas tort. Puis après, le livre que j'ai écrit sur Armen Lubin, par exemple, c'est pas un livre... tout le monde peut le lire, mais il est évident que la biographie d'un poète arménien que la plupart des gens oublient aujourd'hui, c'est pas nécessairement le sujet qui va mobiliser les foules. Donc on fait des livres aussi dont on sait qu'ils n'auront pas nécessairement beaucoup de lecteurs. Mais bon, ça fait partie du projet d'écriture. On n'écrit pas en se disant j'aurai tant de lecteurs ou j'aurai pas de lecteurs. On écrit et puis après on regarde ce qui se passe.
Vous êtes a priori pas dans cette dynamique-là ou dans cette logique-là. Il y en a peut-être qui écrivent avec cette attente.
Oui, mais après, ça peut aussi se comprendre. Je veux dire, des gens qui ont fait de la littérature leur activité principale et qui essayent d'en vivre... Moi, je ne condamnerai jamais quelqu'un qui est à la recherche du succès, parce qu'essayer de vivre de sa plume, c'est très difficile. Moi, je parle depuis le confort relatif d'un emploi salarié, qui certes me prend l'essentiel de mon temps, mais ne me condamne pas au succès. Mais quand quelqu'un essaie de vivre de sa plume, il est condamné au succès. Et ça, c'est pas facile.
Et c'est important pour vous d'être, je sais pas si on peut le dire comme ça, mais d'être indépendante de ce que des subsides de l'écriture.
Ah bah c'est fondamental. parce que ça me permet de faire ce que je veux, justement, non seulement de faire ce que je veux, mais en plus de le faire au rythme où je veux. C'est-à-dire que si je veux cesser de publier pendant 2 ans et 3 ans, déjà j'aurai de quoi manger, ce qui n'est pas du tout trivial comme considération. Et puis, il n'y a pas cette pression de devoir sortir un livre tous les 18 mois parce que faut alimenter la machine. Donc, pour moi, ça change tout et je n'arrêterai de travailler pour rien au monde. On me pose souvent la question en me disant, vous ne voulez pas arrêter, vous consacrer à l'écriture? Non, parce que, un, j'aime mon métier, donc je n'ai pas envie de le lâcher. Et puis, deux, mon métier, même s'il me complique beaucoup la vie d'écriture, il me donne justement l'espace et la liberté.
Donc c'est inconcevable de vous dédier à 100% et à l'écriture et à vivre de votre plume.
Non, j'en aurais pas envie. Et puis j'aime bien avoir des collègues, j'aime bien avoir mes étudiants, j'aime bien ce contact humain-là. C'est très bien aussi d'avoir une vie dans laquelle tout le monde se fiche éperdument de ce que vous faites comme écrivain, où vous avez d'autres choses à faire, d'autres occupations, d'autres responsabilités. C'est parfait. Je veux dire, ça maintient les pieds sur terre, c'est très bien. Enfin, pour moi, en tout cas, ça me convient parfaitement bien.
Et là, dans notre rencontre, est-ce que vous voulez que je me fiche complètement de ce que vous faites en dehors du rôle d'écrivaine?
Disons que ça... Ça a une incidence, mais pas forcément directe. C'est-à-dire que parfois, des gens très gentiment, durant des rencontres, ils commencent à me présenter, ils lisent la liste de tous mes diplômes. Je dis, mais arrêtez là, qu'est-ce que vous faites? Je pourrais n'en avoir aucun, que ça ne changerait rien. Je veux dire, c'est quand même deux activités qui ne sont pas les mêmes et qui ne se superposent pas. Donc mon métier, c'est mon métier, avec ses contraintes, parce que parfois j'en suis fatiguée aussi. Tout le monde est un peu épuisé, hein, dans l'enseignement, dans les milieux médicaux, on est tous un peu dans le même état. Il y aurait beaucoup à dire sur la façon dont on travaille, mais ce sont deux sphères qui, certes, ont des points de contact, mais qui ne se rencontrent pas nécessairement.
Eh bien, on va peut-être en parler juste après. Alors, j'aimerais qu'on écoute un extrait, enfin un morceau que vous avez choisi, la 556e. Je ne sais pas quel est son nom. Est-ce que c'est la pièce du manuscrit d'Assas ou est-ce que c'est la sonate Poisson d'avril? Elle s'appelle comment
Alors elle s'appelle la sonate des poissons, mais il l'avait traduite en italien et les Peschi, je crois. Et effectivement, il l'avait appelée sonate du manuscrit d'Assas. C'est une sonate qui a été composée par Scott Ross, qui a interprété les 555 sonates de Scarlatti, est le 1er avril 86 ou 87, dans les enregistrements quotidiens que diffusait France Musique, qui en passait 2 ou 3 par jour, il a glissé celle-là.
Alors donc c'est Scott Ross qui singe Domenico Scarlatti.
Oh, il ne le singe pas, non. Il ne le singe pas, je veux dire, il l'imite avec génie, ça pourrait être de Scarlatti.
Voir certains commentaires disent qui va au-delà de ce qu'aurait fait Scarlatti. Enfin bref, on va écouter ça. En tout cas, l'idée c'est d'introduire Domenico Scarlatti qui est au centre de ce dernier roman. Et puis on en reparle juste après. Thank you. Vous êtes bien sur France Musique, il est 14h28. Non, je plaisante, on est bien toujours sur l'autre radio. Dans cette lecture en tête à tête avec Hélène Gestern, donc on vient d'écouter Scott Ross s'interpréter lui-même à la manière de Domenico Scarlatti. Bon, je pense. Moi, j'ai toujours, toujours un problème quand on parle d'un roman, c'est que on parle de l'histoire, on parle des personnages, mais à un moment donné, on est en train de ne pas parler du roman. C'est-à-dire qu'on va, on va discuter d'une histoire, on va discuter d'un personnage, on va discuter de ce Domenico Scarlatti, donc c'est un compositeur du 18e. Qui a une vie assez incroyable, vous pourrez aller voir. J'ai pas envie de parler de ça. J'ai pas envie de parler de ça, j'ai envie de parler de cet extrait sonore, là, de cette 556e, comme on le disait, qui on le disait en l'écoutant, et qui a été faite vraiment à la manière de Domenico Scarlatti, qui fait qu'un musicologue n'aurait pas su démasquer l'imposture. Et c'est cette 556e sonate qui est la clé de ce roman, en tout cas le sujet de ce roman. Et on se pose cette question. Alors, on se pose cette question, est-ce que c'est effectivement un manuscrit inédit, une composition du Domenico Scarlatti, ou est-ce que c'est un faux, on ne sait pas, et ça va mettre les personnages, les différents personnages de ce roman, qui sont tous mêlés à Scarlatti et à cette partition, dans des situations un peu bizarres. Effectivement, on n'est pas sur un sujet grand public, hein. Scarlatti, j'aurais jamais écouté ça. Le pianoforte, le clavecin, j'en sais rien. Enfin, c'est un monde de peut-être de spécialistes qui peut toucher, qui peut ne pas toucher. Qu'est-ce qui vous a amené à ce sujet-là? Qu'est-ce qui vous a amené à cette partition-là? D'où ça vient, cette histoire-là?
Mais le fait que je suis exactement comme mes personnages, je suis folle amoureuse de la musique de Scarlatti depuis très très longtemps. Voilà. Alors, déjà, on me dit pourquoi vous n'avez pas fait ça sur Mozart ou sur Bach ou sur Handel, parce que je ne les aime pas assez. Je fais une exception pour Bach, je dis toujours avec Scarlatti, c'est un mariage d'amour et Bach, c'est un mariage de raison. Et je suis bigame. Mais bon, d'autres musiciens ne me touchaient pas de la même manière. Ce n'est pas spécifiquement la vie de Scarlatti, parce qu'on n'en sait pas grand-chose. Et puis le roman ne cherche absolument pas à combler les blancs. Ce n'est pas une espèce de fausse biographie qui imagine quoi que ce soit. On a des personnages qui constatent qu'ils ne savent pas grand-chose sur lui, mais ils ont sa musique. Donc au départ, c'est une fascination personnelle. Et comme il est assez difficile d'écrire sur la musique... Des choses sur lesquelles il est plus difficile d'écrire que sur d'autres, et la musique, c'est vraiment difficile. C'est pas le même ordre de perception sensorielle. C'est difficile de mettre des mots dessus. Donc j'ai imaginé 5 personnages aux prises avec une partition inédite qui pourrait être une sonate de Scarlatti, mais qui pourrait n'être pas une sonate de Scarlatti, mais qui en tout cas est suffisamment émouvante, géniale, magnifique et brillante pour l'être. Et tout le roman suit la relation qu'ils ont, pour certains avec la partition, pour d'autres avec la sonate elle-même, puisqu'elle a été interprétée une fois, et que ça va laisser une trace sonore. Et c'était l'occasion finalement de les décrire aux prises avec leur amour de la musique, qui, chez à peu près tous, est assez envahissant, mais pour des raisons différentes, soit parce qu'ils l'aiment, soit parce qu'ils la pratiquent, soit parce qu'ils l'analysent. Et finalement, le seul qui ne l'aime pas, ou pas trop, il est luthier. Et lui, il fabrique des instruments. Donc, il est l'homme qui produit le son des instruments. Donc, ils ont tous une relation extrême avec la musique. Ils sont au cœur du réacteur, parce que la musique, c'est eux qui la font. Et ça a été une stratégie pour approcher une possible manière de dire la musique.
C'est le thème du livre, c'est la musique. Vous avez voulu écrire sur la musique.
C'est ça.
Et sur comment la traduire et comment la faire ressentir par les mots.
Oui, et ça ne pouvait se faire que sur une musique avec laquelle j'avais une relation aussi intense que celle que je prêtais au personnage. Donc ça ne pouvait se faire que sur la musique de Scarlatti, qui est quand même un continent, parce que 555 sonates, dans l'enregistrement de Scott Ross, ça représente plus d'une trentaine d'heures de musique, c'est-à-dire qu'on pourrait passer une journée entière sans dormir, on n'aurait pas encore épuisé la totalité des sonates, donc c'est assez... Je ne sais pas si on comptait le nombre de notes, combien de millions de notes ça fait. Mais c'est assez fascinant, quoi. C'est un continent à part entière. On peut occuper une vie avec ça, je pense.
J'ai réécouté une émission sur le sujet. Il y a Scott Ross, quand il a sorti son intégrale, c'était 34, j'adore le mot, 34 compacts. Donc 30, oui. 34 CD.
Oui, parce qu'à l'époque, il fallait quand même beaucoup d'argent. Donc c'était une fondation, la fondation Kalous Gulbenkian, qui avait financé le projet. Et il y avait aussi cette technologie du compact disque qui l'avait permis. Avec le vinyle, je ne suis pas sûre que ça aurait été possible, que des producteurs se seraient lancés là-dedans. Mais il y avait tout cet engouement du milieu de la musique classique pour ce nouveau support qui arrivait sur le marché. Donc tout le monde était très enthousiaste à faire des enregistrements. Et Scott Ross, quand il a commencé son enregistrement, il était malade, il était atteint du sida. Mmh. Une époque où il n'y avait pas de trithérapie, donc il savait qu'il allait en mourir. Et ça a été une espèce de course contre la montre. Il a pu finir l'intégrale, il a enregistré 6 sonates de Bach et c'était fini. Donc il y a aussi ça, je veux dire, l'homme qui joue, là qu'on a entendu jouer de manière aussi gaie, aussi brillante, c'est un homme qui est
condamné.
Qui est condamné et qui le sait. Donc il y a quelque chose de poignant là-dedans et d'admirable dans ce qu'il a fait.
Alors, du coup, moi ce qui m'intéresse, c'est votre fiction, elle s'ancre dans une réalité, votre rapport à la musique, mais ces personnages sont aussi... inspiré de personnages qui ont vécu, Domenico Scarlatti n'est pas un compositeur de fiction non plus. Donc où s'arrête la réalité?
Alors comme je suis une romancière honnête, je mets une petite note à la fin pour expliquer ce qui était fictif et ce qui ne l'était pas. La réalité, elle s'arrête très vite. C'est les quelques éléments biographiques de Scarlatti qui sont rappelés dans le livre, où rien n'est inventé, et tout le reste n'est que fiction.
Et l'inspiration pour... je parle d'un personnage, Manik Terzian, qui est une musicienne, qui est la plus grande interprète dans cette histoire de Scarlatti vivante au moment où les faits se déroulent et qui est en train de... Bon, je ne vais pas en dire plus, mais qui est plutôt sur la fin de sa carrière. Elle existe en écho à Scott Ross.
Alors, il y a beaucoup de Scott Ross en elle, dans ce que je lui ai prêté, mais il y avait d'autres pianistes, et notamment il y a quelqu'un à qui je pensais beaucoup, mais qui n'est pas du tout sur la fin de sa carrière, parce que je l'ai vu lundi en concert, elle est à peu près tout sauf sur la fin de sa carrière, c'est Anne Kefelek. Et alors on m'a beaucoup dit oui, c'est sans doute Martha Argerich, on m'a beaucoup parlé de Martha Argerich, moi qui est sidérante quand on la voit jouer du Scarlatti, qu'elle joue parfois en bis de certains concerts. L'orchestre est sous le choc, ils viennent de jouer avec elle pendant une heure et demie, mais ça fait rien, l'orchestre est sous le choc, le public est fou, ils peuvent pas attendre la dernière note avant d'applaudir, elle rend tout le monde fou, Martha Argerich. Il y a des gens qui ont un génie. Ce que je me disais en regardant Joanne Kefelek, il y a des gens qui ont... Il y a une transcendance, il y a quelque chose qui se passe qui est assez admirable. Donc c'était un petit peu une synthèse de tout ça, c'est-à-dire de ces interprètes qui sont très impressionnants à voir, mais qui sont aussi très profonds. C'est pas forcément, avec tout le respect qui est dû aux virtuoses russes, c'est pas forcément ces jeux qui peuvent être très techniques, très spectaculaires, mais qui parfois... nous laisse un peu sur notre faim en termes d'émotion et de densité. Là, c'est des gens qui ont non seulement transcendé toutes les difficultés techniques de la musique, donc qui vous jouent les choses les plus difficiles comme nous, on boirait un café, mais qui, en plus, ajoutent dans chaque note une intention, une lecture, une lumière. Et là, on est subjugué parce qu'il se passe quelque chose.
Enfin, moi, je trouve que vous le décrivez... très bien, et c'est un plaisir de le lire, ce que Manik Terzian met, justement, c'est les intentions qu'elle met dans ce qu'elle fait, sa vision de l'interprétation. Vous disiez vouloir écrire sur la musique. Je suis un musicophile. En tout cas, mais pas du tout du pianoforte. Et je trouve que c'est la vibration que vous faites passer avec les mots pour parler de la musique, elle est vraiment là. Et elle est Vous avez réussi à mettre des mots qui m'ont fait vibrer comme une musique peut me faire vibrer.
Ah, mais ça me fait très plaisir, parce que c'était un peu l'objet.
Alors, je vous ai jeté quelques fleurs, je vais arrêter là. Je vous propose, si vous le voulez bien, de nous lire un petit extrait, comme il est coutume de le faire dans ces entretiens.
Alors, je vais donner la parole à Manick Terzian, justement, qui joue, mais qui également enseigne. Et n'enseigne pas d'une manière autoritaire et tyrannique, comme on peut le voir parfois. Elle aime enseigner, elle parle, elle regarde un jeune interprète jouer et ça lui rappelle un jeune homme qu'elle a eu comme élève. Son profil tendu dans la lumière m'a rappelé un autre visage, celui d'un garçon que j'avais rencontré à l'occasion d'une session de masterclass au CNSM. Il avait des traits incroyablement expressifs et des mains interminables, au point que j'avais soupçonné un syndrome de Marfan avant qu'il me détrompe. Aux premières notes qu'il avait jouées, j'avais compris que j'avais en face de moi un talent hors du commun. Non seulement son intelligence de la musique était supérieure à celle de ses camarades, mais elle dépassait déjà celle de la plupart des musiciens chevronnés. Sa relation à la partition semblait instinctive, innée, comme si elle s'inventait sous ses doigts, dans la limpidité de son articulation. Pour avoir atteint ce niveau, il devait avoir travaillé comme un fou. À mon échelle, il est rarissime qu'on ait l'impression de rencontrer non pas son égal, mais quelqu'un qui, malgré son manque d'expérience, est voué à vous dépasser. C'était le cas avec lui. Ce garçon donnait à chaque pièce une intensité émotionnelle capable de faire vibrer jusqu'à la douleur des pièces légères de Couperin ou du Flea. Il pouvait adapter en un tournement des standards de pop américaine pour le clavecin. Sa présence dans la classe nous impressionnait tous. Je me rappelle lui avoir parlé un soir après le cours. À l'inverse de ce que je prône d'ordinaire, je lui avais conseillé de négocier avec ses émotions, de les tenir en laisse pour empêcher qu'elles débordent son jeu. Mais il était évident qu'il en était incapable. La classe de composition à laquelle il était inscrit aurait pu être un exutoire. Mais il y avait renoncé, désespérant de jamais atteindre la perfection des maîtres qu'il révérait. Son regard me faisait penser à la mer en Bretagne, parfois d'un gris vert limpide, parfois assombri par de violents remous intérieurs. Je l'ai revu l'année suivante. En octobre, il a disparu pendant plusieurs semaines et est revenu après Noël avec de mystérieux kilos en trop qu'il a reperdus dans la foulée pour revenir à niveau en un temps record. Je crois qu'il était malade. Chaque semaine, j'espérais le croiser dans les couloirs. À un moment donné, il n'est plus venu. On m'a dit qu'il avait craqué, qu'il avait quitté le conservatoire. J'ai su ensuite qu'il y avait eu un incident pendant un concours. Ensuite, c'est moi qui suis partie du CNSM. Je n'ai jamais revu son nom sur un programme de concert. Je le regrette. Quand je croise un jeune musicien qui a la grâce, ou un interprète dont les doigts font fuser la partition comme un feu d'artifice, c'est toujours à ce garçon que je pense.
Ce garçon qui est présent à plusieurs moments dans ce roman et qui le hante. Je reprends quelques mots que j'ai attrapés et qui illustrent moi ce que je vous disais sur ce que j'ai ressenti à la lecture. Quand vous dites ou quand Terzian dit qu'il était incapable, et elle le souhaitait, qu'il apprenne à négocier avec ses émotions. Moi, je trouve ça vraiment hyper, hyper intéressant dans ce que ça dit de ce qu'on peut chercher à faire pour interpréter, apprendre à maîtriser pour transmettre, libérer sans se laisser aller, sans se laisser déborder. C'est un des nombreux passages qui parle de ce rapport à la pratique que je trouve assez génial. Et il y a aussi, vous rendez, je trouve, hommage en tout cas au travail du luthier et que vous faites aussi d'une fort belle façon. J'avais dit que j'allais arrêter avec les fleurs, bon, tant pis. Le sujet de Scarlatti peut rebuter de prime abord, mais je trouve que techniquement, c'est pas une clé d'entrée nécessaire pour entrer dans votre roman et s'y sentir bien. Pourquoi je dis ça, je sais pas là, sur quelle pente je pars, mais en tout cas il y a énormément de choses à découvrir en dehors du sujet techniquement et des références que vous citez encore dans cet extrait et qui moi me parlent absolument pas, mais qui sont autant de portes à ouvrir que vous proposez aux non-initiés. Mais il y a, je pense, des manières assez simples qui font de votre roman un roman tout à fait abordable. Je disais tout à l'heure que je voulais faire une passerelle entre votre activité professionnelle et votre activité d'autrice. Est-ce que votre activité professionnelle sert le travail ou peut-être comment, si c'est le cas, cette activité sert le travail de préparation de l'écriture ou de la construction de vos romans?
En termes de préparation et de construction, non. Je me sers plus de ce que m'a appris mon père en menuiserie, ça c'est sûr. Non, mais c'est vrai, hein, c'est vrai. Faire un meuble et faire un roman, il y a beaucoup de points de comparaison dans la manière dont on prépare et dont on planifie. Là où mon métier me sert, c'est que, en termes de recherche, je suis amenée de temps en temps à mettre mon nez dans les archives. Et je mets souvent aux prises des personnages avec des archives, là en l'occurrence c'est le cas, hein, puisqu'ils ont une vieille partition entre les mains. Donc je sais ce que c'est qu'une archive, je sais comment la décrire, je sais comment en parler. Puis je sais aussi l'émotion que ça donne, parce que j'en vois passer quelques-unes qui ne me laissent pas indifférente. Et puis aussi la relation au langage, parce que par la force des choses, quand on fait des études de lettres, on se doit de disposer d'un vocabulaire assez étendu. Et il se trouve que dans un de mes labos, l'autre, on fait des dictionnaires. Donc c'est une relation aux mots, on a beaucoup de conscience de ce qu'on appelle la diachronie, c'est-à-dire l'épaisseur temporelle du langage, l'histoire d'un mot, les différents sens qu'il prend. Et ça donne une sensibilité particulière à la densité des mots. Donc, quand on les utilise, on essaye d'être peut-être plus exigeant, plus précis. Mais je ne dirais pas qu'il y a une corrélation directe, par exemple, entre mon métier et l'écriture. Je suis frappée à chaque fois de voir à quel point ces deux activités différentes, ça m'est arrivé de faire des livres dans le cadre universitaire, et faire un livre scientifique et faire un livre de fiction, c'est deux choses qui ne sont pas aux antipodes l'une de l'autre, mais qui n'ont pas grand-chose à voir l'une avec l'autre.
Très bien, donc je pourrais arrêter de chercher à relier les deux, on va pouvoir se concentrer sur l'écrivaine. Est-ce que dans vos écrits, vous avez une visée commune? Ou est-ce que chaque œuvre a sa propre visée, personnellement?
C'est difficile d'avoir une visée commune, c'est difficile de savoir à quel moment une collection de livres pourrait potentiellement devenir une œuvre. Ça, c'est une chose qu'on ne maîtrise pas véritablement. Non, c'est plutôt un objet, c'est plutôt l'idée de se dire « tiens, j'aimerais écrire là-dessus, comment je vais m'y prendre ?» avec la difficulté d'essayer de renouveler les formes qu'on emploie, donc de ne pas se singer de roman en roman, justement, de ne pas s'installer dans une sorte de rail confortable, dans une recette, en se disant « tiens, ça je sais faire, donc je vais faire comme ça, c'est bien ». D'essayer à chaque fois de résoudre des difficultés nouvelles, c'est de trouver une forme. Et tous ceux qui ont tapé à bras raccourcis sur Annie Ernaux après son prix Nobel, en vilipendant son style, etc., bah, il ferait bien de la relire un petit peu. Et puis de comprendre aussi l'écrivaine qu'elle est, qui presque à chaque livre a dû réinventer une forme pour dire ce qu'elle voulait dire. Et ça, c'est admirable. C'est vraiment admirable. Mais ça ne se comprend que si on lit vraiment les gens. On ne peut pas le percevoir si on se contente de l'écume d'une surface médiatique. Et c'est ça qui est difficile, me semble-t-il. C'est de retrouver la forme, parce que des choses dont on a envie de parler, elles s'imposent un petit peu à nous-mêmes. Avoir une visée, pas nécessairement. Je ne fais pas des romans pour démontrer quoi que ce soit. C'est pas mon rôle. Moi, je ne sais pas faire ça. Donc c'est plutôt des romans qui racontent une histoire, mais j'ai envie que cette histoire, elle soit cohérente et qu'elle soit emmenée d'une manière littéraire qui lui donne aussi un intérêt propre. Mais non, finalement, je ne m'encombre pas trop avec des visées, parce qu'il me semble que ce serait plus paralysant qu'autre chose.
Mais c'est pas une visée que de vouloir raconter une histoire ?
C'est plutôt une activité. C'est une activité humaine fondamentale. Anne-Marie Gara, elle en a parlé très bien quand elle a fait son essai sur le petit chaperon rouge. C'est une sorte d'activité matricielle que tout le monde a fait, qu'on a entendu quand on était petit, qu'on a répété à notre tour. Allez, on disait que t'étais la princesse et que moi j'étais le roi, tout ça. Donc on a tous fait ça. C'est plus une aventure qu'une visée, raconter une histoire. C'est plus une entreprise qu'une visée. C'est de dire, allez, on y va. En sachant que s'il va y avoir de grands périls, là, c'est comme un voyage avec ses accidents, ses ralentissements, ses problèmes, etc. Puis ces moments de grand bonheur aussi. Mais c'est plus quelque chose dans lequel on s'embarque finalement, en espérant qu'on ira jusqu'au bout.
Et alors, pour le questionner autrement, quel est le sens de cette entreprise pour vous ? De cette aventure ? De ce voyage ? Est-ce que, si c'en a un ?
Je ne sais pas vraiment. Je ne suis pas sûre que j'ai essayé de donner un sens. C'est une façon de s'occuper de la vie. non, mais j'aime beaucoup faire du jardinage aussi. J'aime bien m'occuper de mon chat, de mes petits écureuils que je nourris. Et pour moi, tout ça, ça participe exactement du même mouvement. C'est une façon de s'occuper de la vie. Et ça, je le dis, mais vraiment sans ironie aucune. Déjà, quand on fait ça, on ne fait pas de mal. Ce qui n'est pas rien dans le monde dans lequel on vit, d'avoir une activité qui est non agressive, non nocive, non toxique, une activité qui est plutôt pacifique au fond. Et de toute façon, on le choisit bien sûr d'être écrivain ou pas, de persévérer ou pas dans cette voie-là, mais d'une certaine façon, c'est un peu un truc qui vous tombe dessus. Ça fait des drôles de vie, hein, c'est rentré dans les ordres d'une certaine façon. Il y a beaucoup de choses qu'on ne fait plus à partir du moment où on écrit, parce que ça mange la vie, mais on ne se pose pas vraiment la question. C'est comme ça, on le fait parce que d'une certaine façon, on ne peut pas faire autrement. Donc non, j'essaye pas de donner un sens particulier. La seule exigence qu'il y aurait, c'est de ne pas faire des choses qui soient gratuites. De ne pas se dire, tiens, je vais faire un livre parce que ça fait longtemps que je n'ai pas publié le livre. Tiens, je vais faire un livre parce que ce serait récréatif et divertissant. On fait un livre quand on estime qu'on a quelque chose à dire. Et puis si on n'a rien à dire, ben, on se tait en attendant que ça revienne.
Et vous avez encore des choses à dire après Scarlatti ?
Bah, c'est une question qui se pose, qu'est-ce qui reste à dire ? Parce qu'il y a ça aussi, il y a le fait qu'on écrit livre après livre et on se dit, est-ce qu'à un moment donné on va s'épuiser ? Est-ce qu'à un moment donné on arrivera au stade où on n'aura plus rien à dire ? C'est une vraie question, le vieillissement de l'écriture avec soi aussi. Donc pour le moment oui, après je me rends compte que même dans des moments de doute comme ça, la vie nous apporte des sujets qu'on n'aurait pas pensé traiter, mais qui vont s'imposer à nous, parce que la vie n'est pas linéaire, et elle ne fait pas de cadeaux, comme disait Brel. Donc de temps à autre, un petit obstacle sur la route qui devient un gros obstacle, et puis on fabrique de l'écriture autour de ça. Donc je ne pense pas maintenant, je suis plus confiante sur le fait que des choses à dire, il y en aura toujours. Ce qui m'inquiète bien davantage, c'est la manière, c'est-à-dire jusqu'où est-on capable de recréer des manières de dire les choses, jusqu'où est-on capable justement de ne pas devenir la caricature de soi-même, quelqu'un qui a une recette et qui va l'appliquer livre après livre. Ça, c'est une vraie préoccupation. Mais là-dessus, je ne suis pas sûre qu'on maîtrise tout. Donc il faut laisser faire le temps et puis voir ce que ça donne.
Donc vous laissez porter par le temps avant de vous... Vous êtes déjà rattaqué à un nouveau chantier où justement... Je parle d'un nouvel écrit.
Ah, mais j'ai déjà écrit quelque chose d'autre. Et là, je suis en train de penser à la chose que j'écrirai encore après. Mais le temps n'est pas venu. Voilà, le temps n'est pas venu. D'accord. Là, c'est des choses qui réclament encore d'être pensées, d'être fixées, d'être vraisemblablement réécrites une ou deux fois. Donc le temps n'est pas venu.
Très bien. Bah, écoutez, merci Hélène Guesterne.
Merci à vous.
D'être venue discuter avec moi. Pour lecture en tête, on va terminer avec une autre pièce que vous avez choisie de Jean-Philippe Rameau. Son titre, Le rappel des oiseaux.
Oui, et c'est absolument ensorcelant, et c'est joué par Scott Ross.
Encore une fois.
Encore une fois.
Pourquoi ce choix ?
Parce que c'est une pièce absolument lumineuse et ça s'appelle vraiment pas le rappel des oiseaux pour rien, parce qu'on entend tout, on entend le chant des oiseaux, on entend la nature, on entend cette musique qui est réputée snob, intellectuelle. Là, on entend une sorte de limpidité, d'évidence qui est magnifique. Et il se trouve que ça m'accompagne beaucoup en ce moment, donc j'y ai pensé assez spontanément.
Bon, alors je vais l'écouter attentivement et essayer de rentrer dans cette lumière. Merci, Hélène Guestern.
Merci à vous.